Vous allez vous installer ici à côté de moi, si vous le voulez bien. Vous allez pouvoir vous installer au bout de ici à côté de moi, là.
Ah, d'accord.
Voilà, d'accord. Pour la discussion, laissez la page pour l'instant apparaître, comme ça chacun va pouvoir noter. Je ne suis pas sûr, hein, vous disiez à l'instant que l'apparition de nouveaux acteurs dans la relation de soins était intéressante. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord là-dessus, mais peut-être que les uns ou les autres, vous aurez envie de réagir à cela. Est-ce que vous avez quelques questions? On a 8 minutes devant nous pour quelques questions, quelques remarques sur ce qui vient d'être dit par M. Hérault. Qui veut commencer?
Oui, vous m'entendez?
Oui.
André Bitton, pareil, président du Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, ancien président du groupe Information Asile. Je note dans l'exposé de M. Benoît Hérault qu'entre le mouvement pour les droits civiques aux USA dans les années 60, ainsi que entre le mouvement mené par Mind au Royaume-Uni, qui a mené à la réforme, à la judiciarisation partielle du système britannique en 83, les autres mouvements de judiciarisation à travers l'Europe et la France, où il a fallu attendre la réforme de la Constitution de 2008 pour que les QPC soient possibles et pour que la Haute Cour constitutionnelle censure le dispositif français, il s'écoule plusieurs décennies. C'est dire le retard de la France. Le dispositif français a refusé l'entrée du droit dans la psychiatrie, ce qui est proprement un scandale. Bon, maintenant, cette impasse est levée. Ça fait 5 ans que cette impasse est levée. Il est temps d'avancer. Et j'en appelle pour ma part, en tant qu'ancien interné, en tant qu'ancien patient, en tant que dirigeant d'assaut d'usagers, à un changement des mentalités.
Merci pour votre témoignage. Alors, le droit anglo-saxon est en train de se répandre partout dans le monde. Là, c'est à vous que je pose la question, hein, M. Hérault. Parce que là, clairement, c'est le droit anglo-saxon, si je comprends bien, qui est en train de faire tache d'huile, quoi.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que la question de la place du juge et la judiciarisation n'est pas propre au droit de tradition de common law. Hein. Le droit allemand, par exemple, de tradition romaniste, a donné une place plus importante au juge dans la régulation du soin psychiatrique depuis bien longtemps. Par contre, ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, il y a sans doute une manière de faire du droit un outil dans la régulation des relations sociales et dans la régulation de la relation de soins, un outil qui est plutôt d'inspiration anglo-saxonne, lié à des histoires sociales, à des luttes sociales anglo-saxonnes, mais qui ont été relayées, bien sûr, l'exemple du GIA et du CRPA en témoigne bien pour le contexte français, dans lequel il y a eu également des formes françaises de mobilisation où on peut dire que ce mouvement international, disons, c'est un mouvement international plus que spécifiquement anglo-saxon. Deuxièmement, tout de même, dire que dans cette question de comment faire place à des nouveaux acteurs et aux acteurs spécialistes du droit au sein des établissements de soins, au sein des services de soins, je crois que oui, mais la journée en témoigne avec les nombreux exemples que vous allez voir. Je crois qu'il y a des expériences, notamment dans des pays anglo-saxons, qui sont tout à fait riches sur des formes de négociation entre spécialistes de droit, est-ce que ce sont des avocats ou est-ce que ce sont des conseillers juridiques, où on a des formes plurielles évidemment, mais des formes de négociation entre les cliniciens et les spécialistes du droit qui sont riches d'enseignements et sur lesquels je pense que c'est évidemment tout à fait important de réfléchir pour l'adapter à un contexte français qui a aussi ses spécificités et sans doute une réflexion clinique qui est une histoire aussi de théories cliniques qui sont propres dans le contexte français.
Alors justement, est-ce que vous, directeur d'établissement, qui êtes dans la salle, vous avez une opinion à exprimer autour de cette évolution? Vous la subissez? Vous y participez? Vous avez envie de la faire évoluer? Ou alors vous dormez? Oui, monsieur, devant, s'il vous plaît. Le micro devant, s'il vous plaît.
Bon, je ne suis pas directeur d'établissement, je suis modestement député.
C'est intéressant comme exposé, mais à la fois je m'inscris dans ce que vous dites, et puis j'ai des bémols. Je vous donne quelques exemples de bémols. C'est pour essayer de j'ai l'impression que la dynamique, elle est pas, qu'elle est freinée, pour le moins, voire qu'elle peut régresser. Au niveau international, la question des droits fondamentaux ne me paraît pas forcément en progrès. Regardez le nombre d'États qui envisagent de se retirer de la Cour pénale internationale, pour prendre cet exemple-là. Regardez l'attitude par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, et peut-être par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, de la Russie et de la Turquie, ce qui est assez attendu, mais aujourd'hui de l'Angleterre, enfin, du Royaume-Uni, ce qui est beaucoup moins attendu. Alors que les progrès pour incorporer l'ordre européen à l'ordre interne du droit britannique sont relativement récents. Bon, pour des mécanismes, pour ceux qui connaissent un peu le droit de monisme et de dualisme des ordres juridiques, bon, là encore, le fait que tranquillement, les Britanniques cherchent les solutions pour paralyser les effets d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme me semble montrer que la dynamique internationale que vous pointez effectivement aujourd'hui est peut-être un point limite, ou en tout cas est très sérieusement contestée et challengée. Je vous entendais parler de la place du consentement qui est évidemment essentielle, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de relever que dans la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, on explique, ou en tout cas on écrit dans la loi, ce qui de mon point de vue est assez grave, et ce qui probablement fera l'objet un jour d'un contrôle constitutionnel, que le directeur d'établissement, et donc là on parle d'un directeur d'EHPAD, doit rechercher le consentement. Et quand on recherche, si la loi écrit qu'on doit rechercher, ça veut dire a contrario, il n'y a pas besoin de l'obtenir puisqu'il suffit de le rechercher. Et donc vous avez une personne qui n'est pas c'est une personne âgée, qui n'est pas nécessairement sous une mesure de protection, dont on écrit tranquillement dans la loi qu'elle pourrait être dans un établissement d'hébergement qui est censé être son domicile, contre sa volonté, puisqu'il suffit de rechercher celle-ci, mais sans nécessairement la recueillir. Bon, voilà pour des signaux où je me dis, quand on regarde l'évolution des textes, c'est vrai qu'il y a tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi ces signaux-là, et qui sont des signaux qui me paraissent de plus en plus répétés, insistants, fréquents. Après, ce qui va dans votre sens également, c'est que les moyens procéduraux, là, pour le coup, de lutter contre la discrimination, je pense à l'action de groupe qui a été instituée par le Parlement français, à travers à la fois la loi de modernisation de notre système de santé et également à travers la loi justice au XXIe siècle, donne là aussi de nouveaux moyens pour agir.
Voilà, merci.
Simplement pour nuancer le paysage.
De toute façon, vous allez prendre la parole dans peu de temps pour exposer effectivement votre regard d'élu, entre autres, et peut-être d'avocat aussi d'ailleurs. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Dernière, avec un S s'il y en a deux, sinon ce sera la dernière.
Oui, bonjour, donc je ne suis pas directeur d'établissement, je suis médecin d'IME au Clignotier.
Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort?
Je vais parler plus dans le micro. Voilà. Donc je disais que je ne suis pas directeur d'établissement, mais que je suis médecin d'information médicale au Clignotier. Et que j'ai cru entendre dans le discours de M. Hérault qu'il pensait que les médecins étaient mal à l'aise avec l'intervention du JLT. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai cru comprendre ou pas. Je pense, alors je ne suis pas psychiatre non plus, je suis médecin de santé publique, mais je suis quand même très présente dans mon établissement. Je ne suis pas sûre que les médecins, les psychiatres aient beaucoup. Regretter pour finir la décision, enfin la loi de 2011 avec l'intervention du JLD. Au contraire, je pense qu'en fait, je trouve que c'est une bonne chose peut-être de faire intervenir un magistrat qui va avoir un regard extérieur et qui va permettre justement de les aider peut-être à mettre en place cette mesure de soins sans consentement qui n'est pas facile pour les psychiatres non plus. Hein, je crois que pour eux, c'est compliqué aussi. Et à tel point qu'il y a, tous les ans une formation qui est faite par l'ENM, les connaissances de la magistrature, avec les psychiatres, justement sur une, pour essayer d'avoir une acculturation commune un petit peu de cette question des magistrats qui ne connaissent pas forcément le soin et des psychiatres qui ne connaissent pas forcément le droit. Et voilà, je pense qu'en fait, non, ça se passe plutôt bien.
Bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Hérault?
Peut-être un écho. Hein, Il y a peu d'études qui existent sur finalement comment les médecins s'approprient la loi de 2011 ou de 2013. Donc je pense que dans le fond, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que il y a un partage de la responsabilité de la contrainte qui est plutôt un allègement du poids pour les médecins. Ce que je disais plutôt, c'est qu'il y a une difficulté à penser le rôle clinique du droit au-delà même de la question du contrôle systématique par le juge. Et je crois que l'enjeu, il est plutôt là, il est de donner une place clinique au droit. Hein. Et puis, peut-être simplement pour faire un tout petit écho à l'intervention de Denis Robillard, alors évidemment que de remettre le paysage dans sa dimension panoramique est évidemment important. Sur l'exemple britannique, redire que c'est assez contrasté. Les Britanniques ont cherché à mettre en application sur les questions de capacité juridique et de restriction de liberté une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'intitule le cas Bournemouth, qui a conduit vraiment à une réflexion majeure sur les situations de restriction de liberté pour toutes les personnes dans le monde des personnes âgées, dans le monde du handicap, non concernées par les droits psychiatriques, qui est très en avance et qui conduit certains États britanniques, aujourd'hui l'Irlande du Nord, à proposer une refonte très forte de leurs droits pour articuler droit de la capacité juridique, droit des restrictions de liberté, et de proposer un modèle de droit commun général qui est tout à fait stimulant et tout à fait intéressant. Donc, oui, contexte général, il y a évidemment des réticences fortes sur aussi le domaine particulier de la santé mentale et de la vulnérabilité, des réflexions qui restent tout à fait stimulantes.
Monsieur là-bas, qui voulait s'exprimer ? Oui, oui, vous, à gauche, vous n'avez pas de micro. Allez-y, vos yeux.
Un retour d'expérience, parce que je suis psychiatre depuis 33 ans, et il y a une évolution nette du lien avec les patients, et une grande du fait de la judiciarisation, une grande responsabilisation des patients vis-à-vis des soins. Puisque au début, où j'ai commencé, en fait, on était dans un rapport où le psychiatre imposait les soins et le patient disait moi j'en veux pas ou j'en veux des. Alors que maintenant, grâce à la judiciarisation, on peut le responsabiliser sur le fait qu'il est acteur de ses soins. Et il y a eu un changement notable du lien entre le psychiatre et le patient. Et alors, moi, je voudrais rajouter un deuxième élément qui est pour moi fondamental dans le changement aussi du rapport entre pas que le psychiatre, mais l'ensemble de la profession médicale et les patients, ben, c'est l'accès à Internet. Parce que maintenant, on a des patients qui ont accès à leurs soins, à leurs médicaments, et qui négocient, et qui disent, voilà, tel médicament, je ne le veux pas parce qu'il a tel effet secondaire. Et ainsi de suite. Donc, on est de sujet à sujet, on est encore plus de sujet à sujet parce que les patients ont un accès à l'information aussi important que le nôtre. Et d'ailleurs, dans ma pratique actuelle, c'est que quand je vais prescrire un médicament, je vais sur les forums de patients pour voir ce que les patients disent des médicaments. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une étude qui est en train de se faire actuellement. Il y a des psychiatres qui font des groupes de recherche sur les forums de patients pour avoir une bonne connaissance des médicaments, justement, versus patients. Voilà.
Merci pour ce témoignage. On va remercier M. Hérault pour sa présentation.